Envie d'ado.
Envie d'ado, une émission radiophonique.
Anaïs.
Mathéo.
Meryl.
Tamara.
Dino.
Jade.
Envie d'ado.
Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous sommes des adolescents du CASA, de Manosque, et dans le cadre de notre projet culture, nous réalisons une émission radiophonique qui s'intitule « Envie d'ado ». À tour de rôle, nous allons vous présenter des chroniques sur différents sujets, des thèmes qui nous animent et que nous avions envie de partager avec les auditeurs de Fréquence Mistral. Il sera question de culture, de sujets de société, et même de questionnements philosophiques, avec également des micro-totoirs pour recueillir la parole des manosquins, et une invitée qui répondra à nos questions, Madame Vanko Wemberg, archiviste municipale à la ville de Manosque. Notre amie Jade est passionnée de musique. Elle a choisi de vous faire partager sa passion pour une chanteuse américaine de rock indépendant et de rock alternatif. Jade, c'est à toi.
Bonjour, je suis Jade et aujourd'hui mettons la lumière sur Mitski, la douceur dans la douleur d'une voix. Née au Japon, elle est actuellement autrice-compositrice en Amérique, aux États-Unis. Sa musique, intime, brute et parfois explosive. Je n'écoute pas sa musique, je la ressens. Une ligne entre le folk et le rock indé est alternatif. On aime Mitski car elle chante ce qu'on n'ose pas ressentir. Mitski, elle ne crie pas, elle souffre doucement et on aime beaucoup ça. Parfois, sa musique nous emporte plus que les paroles ne le font avec sa ligne de basse hors du commun et le reste des instruments se mariant si bien avec sa voix de porcelaine. On aime Mitski car c'est une blessure que l'on n'a pas envie de guérir. Sa musique est pour moi une lettre que je n'oserais jamais envoyer. Je réalise moi-même ma propre musique, je joue dans un groupe et elle est ma plus grande source d'inspiration. Son tout premier album, Abeille, est aussi ancré dans ma toute première musique. La musique est pour moi un art merveilleux qu'elle maîtrise à la perfection. Maintenant, je vous présente A Pearl de Mitski, place à l'écoute.
About. Sorry, I don't want your touch.
Merci Jade pour cette jolie découverte. La chanteuse Mitski, comme tout à chacun, se questionne au travers de sa musique sur par exemple le sens de l'existence ou l'importance de l'amour et bien d'autres choses encore. Matteo a choisi de s'interroger sur la notion du vide. Bonjour Matteo.
Bonjour Anaïs. Avec Gino, nous avons réalisé un micro-trottoir afin de savoir ce que pensent les manosquins de la notion du vide.
On entend souvent dire que l'espace est vide.
Qu'est-ce que le vide pour vous ?
C'est assez effrayant, le vide. C'est pas une notion que j'aime beaucoup explorer. Je pense que cela peut être inquiétant dans ce que l'on entend par vide en général, vide de façon philosophique ou même simplement parfois d'être en haut d'une échelle et d'avoir peur du vide. Je pense que ça nous fait peur parce qu'on n'arrive pas à quantifier ou à nommer vraiment. J'avoue que parfois, le vide dans le sens un petit peu de silence, de calme, de rien, dans les emplois du temps surchargés, c'est pas un vide qui fait peur, celui-là, au contraire. Je pense que le vide peut être source de créativité, et parce qu'il laisse aussi du temps et de la liberté.
Oui, on peut trouver un sens dans le vide. Moi, personnellement, un certain repos, je dirais. Tranquillité.
Quelle place donnez-vous au vide dans votre vie ?
Il n'y en a pas beaucoup, on va dire. Un manque, je dirais, peut-être. Ça pourrait l'être, une source de créativité.
Le vide pour moi, waouh, c'est une super question. Je ne m'attendais pas à ce genre de question. Bah, le vide, parfois, ça peut faire du bien. Le vide, c'est le calme, c'est la tranquillité. Et puis le vide, c'est aussi le néant, c'est quand il n'y a rien, donc ça peut aussi faire peur, par exemple. Est-ce que je trouve un sens dans le vide ? Et ben, par rapport à ce que je t'ai dit en premier tout à l'heure, des fois ça fait du bien le vide. Ouais, moi j'aime bien des fois le vide. Des fois ça fait du bien de faire le vide, c'est une expression, faire le vide autour de soi. Et voilà, ça veut dire repartir à zéro, repartir sur de bonnes bases. Donc des fois ça m'arrive, ouais.
Est-ce que le vide c'est forcément rien ?
Est-ce que le vide c'est forcément rien ? Je sais pas si le rien existe vraiment. Parfois on dit que c'est vide, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose finalement.
Je crois que le vide est nécessaire à certains moments, oui. Je pense que je lui en donne pas assez de place à l'heure actuelle. Ouais, je pense qu'on a besoin à un moment donné de se retrouver dans le vide pour créer, mais en même temps, à s'y perdre, on perd l'inspiration aussi. Bah évidemment, les gens ont peur du vide, ont peur de la solitude, ont peur de la mort, du néant. Donc ça représente tellement de choses symboliquement que oui, ça fait peur. Après, c'est aussi énigmatique, donc ça peut aussi être attirant comme question. Rien, c'est déjà quelque chose.
Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, le vide, c'est, ça peut être l'absence, beaucoup de choses, le vide, en fait. Mais c'est difficile comme ça de répondre à ça. C'est de la philosophie, là, que vous me demandez. bien sûr, il y a un sens au vide, ça dépend comment, dans quelles circonstances. Mais puis ça peut être le vide de quelqu'un qu'on a perdu, donc ça prend tout son sens quand on y pense. Ça peut être plein de choses comme ça, quoi. J'essaye plutôt de remplir ma vie, en fait. Et d'avoir de moins de vide possible, justement. Et pourquoi ? Parce que le vide, comme je vous disais, ça peut être l'absence, ça peut être la perte de quelqu'un. Et si on veut avancer et profiter de la vie, il ne faut pas oublier tout ça, mais il faut essayer de le mettre de côté et continuer à avancer et continuer de faire des choses et remplir sa vie.
Selon les personnes interrogées, on peut constater que leur réponse était profonde et différente. Chacun a sa notion du vide. Le vide est un sujet très difficile à exprimer, car il peut être purement physique pour certains et uniquement mental pour d'autres. Mais pour moi, il est purement mental. Il s'agit d'un idéal, d'un rêve, d'un concept. Le vide est souvent la figure d'un moment d'ennui et de manque, redouté par notre société et nos habitudes. Là où aujourd'hui nous ne pensons plus au moment présent, et où le mouvement constant est de mise, jamais ailleurs dans l'histoire, le monde n'a bougé aussi vite qu'à notre époque. Le vide semble être l'ennemi de tout ce système, où le temps n'est plus considéré comme essentiel, où presque plus personne ne prend le temps d'y penser. Peu de gens y réfléchissent, et cela me rend triste. Car de mon point de vue, le vide fait partie de nous. Il faut des moments d'inaction pour apprécier les jours que nous passons ici.
Alors je me suis posé, comme je le fais un peu trop souvent pour ma part, et je me suis demandé si dans l'histoire, nos ancêtres avaient une autre vision du vide. Donc ni une ni deux, j'ai fait des recherches. Déjà en 1670, Blaise Pascal, philosophe français, parlait d'un vide spirituel chez l'homme sans Dieu, et pensait que le divertissement était une suite du vide intérieur. Même en Grèce antique, on avait un rapport au vide un peu complexe. On disait « rien n'est plus inimaginable que le néant ». Dès cette époque, les pensées des philosophes tournaient autour du vide. Ils essayaient de le ramener à un sujet à la logique pure et au physique, avec plus ou moins de succès. Donc même à l'époque, le vide était un sujet sensible qui divisait. Mais dans d'autres cultures, il n'est pas vu de la même manière. La philosophie hindoue, par exemple, réfute la vacuité de tous les objets, la considérant comme un idéalisme sans lien avec la réalité. Mais bon, plus je parle et réfléchis au vide, plus ma vision de celui-ci change. Il est difficile de garder une vision fixe sur un état qu'on a tant de mal à expliquer.
Merci Mathéo pour ton intervention. À présent, retrouvons Tamara pour une chronique cinéma. Lors de leur sortie, il y a des films qui ont marqué toute une époque et qui sont devenus cultes de génération en génération. N'est-ce pas Tamara ?
Eh oui, comme aujourd'hui, je voulais vous présenter l'une de mes trilogies préférées. Mais il y a beaucoup de trilogies, me direz-vous. Alors voici un petit indice. Eh oui, comme certains l'auront deviné ou reconnu, je vais vous parler de Star Wars. Mais vous me direz encore, il y a beaucoup de films dans l'univers Star Wars, et je vous répondrai que oui. Mais bon, chacun ses petits chouchous. Je voulais donc vous parler des préquels. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un préquel ? Les préquels sont des films réalisés, souvent après des films à succès, pour raconter l'histoire qui se déroule antérieurement à celle du film ou pour développer l'histoire de certains personnages, comme ici la vie de Dark Vador ou Anakin Skywalker, l'élu, celui qui doit apporter l'équilibre dans la force et la paix dans la galaxie. Dans le premier film réalisé par George Lucas, La Menace Fantôme, sorti en 1999 après le succès de nombreux Star Wars, c'est l'enfance d'Anakin, jeune esclave, qui est racontée au travers de rencontres décisives pour son avenir. Celle de son futur maître, Obi-Wan, et le maître de ce dernier, ainsi qu'une jeune femme qui n'est pas près d'oublier. Le second film, L'Attaque des Clones, sorti en 2002, présente un Anakin grandi et assagi par l'apprentissage de la force et du contrôle, mais perturbé par des visions d'horreur. On y revoit aussi cette fameuse jeune femme, Padmé Amidala, princesse de Naboo et sénatrice, qui engage une histoire d'amour aussi palpitante qu'interdite. Enfin, nous arrivons au dernier de cette trilogie, un chef-d'œuvre selon moi et pour beaucoup, La Revanche des Sith, sorti en 2005, qui a d'ailleurs fêté ses 20 ans cette année par une sortie en salle. Anakin est un jeune adulte, maintenant marié à sa tendre Padmé. Il n'est plus apprenti, mais maître lui aussi. Seulement la soif de protection et d'amour pour ses proches le font tomber au plus bas de la force. Il sombre du côté obscur. Et après un combat des plus historiques du cinéma et une presque mort, il est sauvé en transformé en l'un des plus grands méchants que l'histoire ne connaîtra plus jamais, Dark Vador. Ces films m'ont beaucoup marqué et c'est vraiment une importance pour moi dans la vie d'avoir justement ces chouchous. Comme ça, on peut s'ancrer à quelque chose et ne pas perdre pied avec la réalité.
Merci Tamara. Peut-être que cette chronique vous a donné envie de voir ou de revoir Star Wars. Pour ceux qui connaissent le film, rappelez-vous que chacun des personnages a un style vestimentaire bien particulier et que grâce à cela, nous pouvons facilement identifier ou entrevoir leur personnalité. Selon toi, Gino, dans une société, est-ce que le style vestimentaire est important ?
Oui, d'ailleurs, pour ma chronique, j'ai décidé d'aborder la question du style vestimentaire, qui pour moi est source d'inspiration et de créativité. Depuis toujours, la mode et les styles vestimentaires changent, évoluent et sont le reflet de l'époque. Après réflexion, nous trouvons que le style vestimentaire peut permettre de se trouver, de se sentir bien en tant que soi. Il peut être aussi un style de parole qui permet de s'exprimer autrement qu'avec des mots. Pour moi, mon style vestimentaire est le reflet de ma personnalité et de mes goûts musicaux. Mon style s'inspire de celui d'Eminem, Tupac et Britney Spears, mais aussi du streetwear des années 2000, la période qui englobe toute la culture de mode, musicale et beauté. Je vais vous expliquer ce que j'aime chez eux. Mon modèle vestimentaire actuel est celui d'Eminem, le streetwear des années 2000. Baggy jean, jogging large, casquette à l'envers. Pour Britney Spears, j'aime son style 2000, déjà une taille basse, piercing au nombril, elle est clairement la reine du Itukai. Et enfin Tupac, son style présente quelques similarités avec celui d'Eminem, mais est plus urbain hip-hop, avec des bandanas, des chaînes et des baggy jeans. Je trouve que le style reflète leur personnalité et c'est pour ça que ce sont mes artistes préférés. Même si ça ne plaît pas forcément aux autres, il ne faut surtout pas critiquer les styles, critiquer vous rend-les. À l'adolescence, on peut vite souffrir du regard des autres, après ça dépend si on est susceptible ou pas. mais ça fait jamais plaisir de recevoir des avis négatifs, et surtout méchants. J'aimerais que les gens soient plus ouverts d'esprit, on peut avoir un avis, mais critiquer gratuitement et méchamment ne me plaît pas. Maintenant, en parlant de Britney Spears, écoutons Britney Spears avec A Mass Life For You. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Yeah. When I see this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. I cannot hold it, I cannot control it. I'm a slave for you. I won't deny it, I'm not trying to hide it.
Merci Gino. Meryl, pour cette émission, tu avais le désir de réaliser une chronique qui te tient à cœur sur les résistants de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 2025, mais tu es une adolescente qui n'oublie pas ce qui s'est passé dans notre pays et ce qui a fait l'histoire de notre pays et du monde.
Imaginez, vous êtes en 1944, il fait nuit, vous êtes dans les montagnes des Basaltes. Des hommes marchent en silence. Ils ne sont pas des soldats, mais ils se battent pour la liberté. Ce sont des résistants. Quand l'Allemagne nazie occupe la France et que le régime de Vichy collabore, beaucoup de Français refusent cette situation. Dans ce département discret, des gens simples comme des paysans, des ouvriers et des jeunes décident de résister. Au début, ils diffusent des tracts, cachent des juifs, sabotent des lignes et des trains. Puis, certains rejoignent les maquis. Ce sont des groupes de résistants cachés dans la montagne, comme dans le Haut-Verdon. On les appelle les maquisards. Ils vivent dans des conditions très dures, mais continuent d'agir. Ils attaquent par surprise, puis disparaissent. Mais la résistance, c'est aussi des échecs et des drames. Le 16 juillet 1944 a lieu le piège d'Oraison. Ce jour-là, les Allemands tendent une embuscade à des résistants. Résultat, 27 résistants sont arrêtés. Beaucoup seront torturés puis fusillés. Parmi eux, Louis-Martin Brett, chef du CDL, Comité départemental de libération, figure emblématique des résistants des Alpes de Haute-Provence. C'est un des événements les plus tragiques de la résistance dans la région. Pourtant, il ne lâche rien. Quelques semaines plus tard, les résistants participent à la libération de Digne-les-Bains avec l'aide des troupes alliées. La région est enfin libre. Aujourd'hui encore, des monuments et des plaques rendent hommage à ces hommes et ces femmes qui ont risqué et souvent donné leur vie. Au nom de la France, au nom de la liberté.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une invitée. Bonjour, Madame Van Kovenberg. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes archiviste municipale pour la ville de Manosque.
Bonjour.
Quel rôle principal ont joué les femmes dans la résistance à Manosque ?
Alors, le rôle des femmes dans la résistance à Manosque était assez méconnu jusqu'il y a peu de temps, on va dire. Le sujet vient seulement d'être traité depuis l'année dernière. Alors, c'était vraiment une chance pour moi, qui suis historienne, de pouvoir travailler sur un sujet totalement inédit. Donc c'est un rôle immense que ces femmes ont joué. Les recherches ont vraiment permis d'identifier certaines personnalités. Bon, Noëlle d'Herbès notamment, la plus grande résistante de Manosque, qui était déjà connue, mais aussi d'autres résistantes, notamment les Sœurs Petit, Adeline Venturi, ou encore Yvonne Roche, qui avait 15 ans au moment de la guerre et qui a commis des actes très héroïques. Voilà.
Quelles étaient les missions confiées aux femmes ?
Alors les femmes avaient des rôles très divers et j'ai envie de dire qu'ils allaient du plus anecdotique au plus important. Alors bon, elles faisaient un peu comme les hommes, elles faisaient du transport d'armes. Bon, je sais qu'Adeline Venturi par exemple, elle distribuait la presse clandestine. Ils faisaient du transport de machines à écrire aussi, les Ronéola qui servaient justement à cette presse clandestine. Donc il y avait aussi cette espèce d'échange, il fallait récupérer des machines pour pouvoir diffuser la presse. Noëlle d'Herbès, je sais, elle avait aussi transporté une valise d'explosifs à Marseille en train. Elle était allée jusque-là avec sa valise. Bon, elle ne savait pas que c'était des explosifs à l'intérieur, elle l'a appris après, mais voilà, donc c'est quand même des rôles très, très importants. Noëlle d'Herbès aussi, elle collait des affiches à la porte de la sonnerie la nuit. Donc elle les écrivait clandestinement, elle recopiait notamment les dires du général de Gaulle et puis elle allait coller la nuit sur la porte de la sonnerie pour que tous les manosquins puissent avoir accès à cette information. Voilà, divers missions. Alors elles organisaient des réunions, bon, toujours Noëlle d'Herbès chez elle, c'était un peu le QG de la résistance, donc elle faisait même, on va dire, des choses plus de restauration, puisqu'elle faisait à manger pour ces réunions. Elle faisait le guet dans la rue aussi, pour éviter que tous ces hommes, parce que c'était quand même souvent des hommes qui étaient à ces réunions, soient surpris. Voilà, donc des rôles un peu divers et variés. Elle contribuait aussi à la protection des maquisards, donc au ravitaillement, parfois à les cacher. Voilà, donc en gros.
Pourquoi parle-t-on moins de l'engagement des femmes que celui des hommes ?
Déjà, les femmes dans l'histoire, on en parle moins. D'abord parce qu'elles apparaissent moins dans les archives. Bon, voilà, c'est pour des raisons diverses et variées, mais les femmes sont moins présentes dans les archives. Donc fatalement, quand on écrit l'histoire, elles sont moins présentes. Et concernant la résistance, tout simplement parce que les femmes n'étaient pas... Alors ça, par contre, c'est une mission qu'elles n'avaient pas. Elles n'allaient pas au combat vraiment. Donc, par exemple, elles apparaissent moins sur les monuments aux morts, fatalement, puisque, tant mieux d'un côté, mais elles ont été moins touchées, enfin, il y a eu moins de résistantes que de résistants qui ont été tués pendant la guerre. Et donc, aujourd'hui, elles ne sont pas sur les monuments aux morts, justement pour cette raison-là. Et donc, on a cette image, bon, là, c'est le cas à Manosque, avec le monument de la résistance, où on voit quasiment que des noms d'hommes. Alors, on a cette image, voilà, de la résistance qui est masculine. Il y a une femme, je crois, sur le monument de Manosque. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, et c'est un peu un mouvement national, de justement montrer ce qu'elles ont fait, elles aussi, et qu'elles n'avaient pas forcément des rôles subalternes, comme on a pensé, et certains historiens le pensent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà.
Comment ces femmes combinaient leur vie de famille et celle de résistante ?
J'ai pas beaucoup de recul là-dessus, mais c'est vrai que l'autobiographie écrite par Noëlle Derbez, où elle parle beaucoup de sa vie de famille, nous apprend quand même quelques détails intéressants. Notamment, donc, elle avait deux petites filles qui avaient 5 et 7 ans, si je me souviens bien, au moment du début de la guerre. Et elle était fort anxieuse pour ses filles, à tel point qu'à un moment, elle les a mises chez leur grand-mère paternelle à Fort-Calquier. Elle s'est privée de leur présence, mais justement pour leur sécurité et qu'elle soit un peu en dehors de tout ça. Parce qu'en fait, le mari de Noëlle Derbez, Léo Derbez, était lui aussi résistant. Et d'ailleurs, elle le dit dans son autobiographie, qu'il s'organisait pour que ça ne soit jamais les deux en même temps qui mènent une action, pour qu'il y en ait toujours un des deux qui reste ou qui ne soit pas arrêté, ou voilà, pour les filles. Donc voilà, c'est toujours cette crainte. Et quand elle a été arrêtée par les Allemands, pendant plusieurs semaines, elle a dû aller tous les lundis au siège de la Gestapo à Digne. Et on lui faisait du chantage en disant que voilà, si elle ne collaborait pas, on allait s'en prendre à ses filles. Donc il y avait aussi ce chantage finalement par rapport à ses enfants. Voilà, c'est quelques exemples que j'ai pu trouver dans l'autobiographie de Noëlle Derbez.
Leur genre les a-t-elle gênées dans leur rôle de résistante ?
Alors j'ai envie de dire oui et non. Ça dépend un peu pourquoi. Je l'ai dit, les femmes n'allaient pas au combat et elles ne pouvaient pas assister au parachutage. Alors ça, c'est une grande déception de la plupart de ces résistantes, elles en parlent souvent. Et Noëlle Derbez a eu la chance une fois d'assister à un parachutage et elle en parle comme d'un moment magique. Donc là, c'est vraiment une grosse différence entre les hommes et les femmes. Donc, je vous l'ai dit, elle n'allait pas directement au combat. Par contre, à plusieurs reprises, Noëlle Derbez, dans son autobiographie, dit que le fait d'être une jeune femme l'a beaucoup aidée. Parce que pour passer devant les Allemands, elle joue un peu de sa séduction, etc. Et bon, elle a réussi, notamment dans l'histoire de la Roneo, de la machine à écrire, elle a réussi à Saint-Tulle à passer un barrage d'Allemands. Voilà, en étant un peu... Donc là, on va dire son genre féminin l'a plutôt aidée. Et puis aussi son magasin de colis fichés finalement, puisqu'elle avait son magasin, sa mercerie, où elle vendait des chapeaux, des rubans sur l'avenue Giono, ici à Manos, donc qui s'appelait à l'époque l'avenue du Maréchal Pétain, faisait que ça passait un peu inaperçu. En fait, on n'aurait pas imaginé que c'était un des hauts lieux de la résistance de la région, et que c'est là que tous les grands résistants, René Char, Martin Bray, se réunissaient dans ce magasin de chapeaux et de rubans. Donc voilà, il y a un peu c'est plutôt un rôle positif. Enfin, le fait d'être une femme était plutôt positif.
Est-ce que les femmes résistantes étaient respectées dans leur rôle ?
Oh, je dirais que oui. J'ai pas remarqué le moindre irrespect dans tout ce que j'ai, enfin tous les textes et toutes les archives que j'ai consultées. Non, à part juste à la fin de la guerre où il y a eu des règlements de compte pas forcément très gracieux, mais. Et après, elles ont été. Il y avait une solidarité entre eux, quand même, entre tous, résistants, hommes et femmes. Ils se sont bien, après la guerre, ils se sont bien défendus, ils ont paré aux attaques. Enfin, voilà, je suis tombée sur des dossiers aux archives départementales où, notamment par rapport à Madeleine Petit, qui avait été attaquée sur le fait qu'elle usait de ses charmes, on va dire, pendant la guerre. Tous les grands résistants ont tous écrit des lettres en disant « Mais non, cette femme était extraordinaire, elle a tellement fait pour... » Enfin voilà, donc il y avait quand même un soutien et un... Il n'y avait pas d'irrespect, non, par rapport à ça.
Quelle a été la reconnaissance officielle de leur engagement après la guerre ?
Elles ont eu, comme tous les hommes, il y a beaucoup de dossiers de résistance. Elles ont eu beaucoup d'avantages, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais il y a tous les dossiers pour les cartes de résistance. Mais je trouve qu'après la guerre, juste après la guerre, ça a été un peu compliqué, et pour elle notamment, il y a eu beaucoup de règlements de compte. Je sais que la famille d'Herbès, on les a accusés de s'être enrichis pendant la guerre, alors qu'elle a perdu son magasin, voilà. Il y a eu la famille Petit, Madeleine Petit, on l'a accusée après la guerre d'avoir, entre guillemets, couché avec l'ennemi. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de règlements de compte qui n'étaient pas très beaux, alors qu'on aurait pu s'imaginer voilà, qu'on allait les encenser ou les remercier. Mais au sortir de la guerre, c'était une période pas forcément favorable aux résistants. Alors aujourd'hui, ça, évidemment, tout ça a changé. Et concernant les femmes notamment, il y a vraiment un élan national pour justement montrer ce qu'elles ont fait et que ce n'était pas que des rôles subalternes, des grandes résistantes aussi comme Madeleine Riffaut ou Lucie Aubrac. Mais voilà, même dans les petites villes comme Manosque, on a eu aussi des femmes qui ont fait des actes héroïques pendant la guerre.
Merci. Une dernière question. Vous avez un événement à Avignon début juillet. Voulez-vous nous dire quelques mots ?
Alors, au fait, on avait organisé l'année dernière une lecture d'archives sur les femmes résistantes à Manosque. On l'a jouée à Manosque à deux reprises, et là, on nous a demandé de la jouer au Festival d'Avignon, le 8 juillet, au Théâtre des Carmes. C'est assez émouvant, parce qu'on va porter la voix des manosquines, des femmes de Manosque, dans ce grand festival, donc ça va être une grande expérience. Et j'aurais jamais pensé que mes études d'histoire allaient un jour me mener sur une scène du Festival d'Avignon. Voilà, donc comme quoi, grâce aux résistantes. Voilà, donc c'est le 8 juillet à 18h au Théâtre des Carmes à Avignon.
Merci beaucoup, Madame Van Kobenberg, pour votre temps et vos réponses.
Merci de m'avoir accueilli.
Cet échange était très intéressant.
Voilà, merci.
Si nous sommes conscients de l'importance de l'histoire, nous nous questionnons aussi beaucoup sur l'avenir. Tamara, penses-tu que l'intelligence artificielle va nous remplacer un jour ?
Peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains, oui, comme par exemple les travaux à répétition dans les usines.
Et selon toi, Mathéo ?
Oui, je pense que l'IA va nous remplacer, car rares sont les domaines où nous serons irréductibles.
Dino, que penses-tu de l'IA ?
Je trouve qu'elle ne devrait pas intervenir dans l'art en général. Selon moi, cela va être problématique pour les artistes.
Et vous ne trouvez pas que l'IA nuit à votre créativité ?
Ça nuit forcément à la créativité. Pour moi, l'IA coupe l'imagination et nous empêche d'avoir le réflexe de penser par nous-mêmes.
Gino, pour toi, l'IA est-elle si importante ?
Non, on n'est pas obligé de s'en servir. Avant, l'IA n'existait pas et on s'en sortait très bien.
Et toi, Tamara, qu'en penses-tu ?
Dans la vie de tous les jours, elle n'est pas si importante, mais dans certains cas, elle l'est, comme par exemple dans les jeux vidéo.
Ainsi, nous voulions savoir ce que pensaient les gens de l'intelligence artificielle. On va maintenant écouter un micro-totoir.
Est-ce que, à votre avis, l'IA va nous, peut-être nous remplacer un jour ?
Pour certaines choses, je pense que oui. Elle a déjà commencé avec les robots, par exemple, qui font les voitures, enfin tout ce qui est les grosses machines. Mais après, pour certains trucs, non, je pense pas. Parce que on a toujours besoin des humains et on peut pas. Enfin, ils peuvent pas nous enlever. Enfin, l'IA peut pas nous dépasser non plus.
Non, pas nous remplacer, mais nous aider à faire plus de choses.
Non. J'espère pas. En tout cas, je pense que c'est l'être humain qui est à l'origine de l'IA, donc il va quand même être raisonnable pour pas se laisser complètement dépasser par ce qu'il a créé, et puis donc complètement tomber dans les scénarios qu'on a dans je sais pas si vous êtes trop jeune, mais Terminator, tout ça, enfin toutes ces histoires de de la prise de pouvoir des machines, bon voilà, où l'homme se prend, où l'homme et l'être humain se prend pour un dieu, c'est là où ça peut devenir effectivement dangereux. Donc c'est vraiment un débat énorme, donc je peux pas vous donner une réponse, j'espère pas en tout cas.
Ben aujourd'hui c'est difficile de faire l'impasse. D'abord l'IA, il y a longtemps qu'elle existe, hein, de manière je vais pas dire informel, mais depuis qu'on a un smartphone et qu'on est sur n'importe quel réseau, dès qu'on tape un truc et qu'on cherche, je sais rien, un truc, 10 minutes après, vous avez déjà 3 pubs dans le même sens. Donc il y a très longtemps que l'IA sait nous nous manipuler. Si on veut pas être manipulé, c'est ça le truc. Si on veut pas être manipulé, faut aller au-delà. La créativité, c'est pour ça que quand on parle de créativité, je sais pas, l'autre jour j'étais dans un club photo et on disait on va faire des photos, on va prendre comme sujet les mains. Ok, bon, on peut photographier la main avec une bague, la main avec un poste. Vous tapez ChatGPT, peux-tu nous donner des idées pour faire des photos avec des mains? Vous vous retrouvez avec une présentation en 6 chapitres de 3 items. Ça veut dire qu'en moins de 3 minutes, vous avez 18 idées qui vous sont proposées. Qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va rien nous changer à nous, sinon nous apporter des nouvelles idées pour aller plus loin dans ce qu'on veut faire, qui sont les photos de mains. Donc pourquoi pas l'utiliser?
Ça rejoint la question de l'IA nuit-elle à notre créativité?
Non, je pense pas, non. Alors après, il faut savoir aussi, je veux dire, à l'école, on fait quoi avec l'IA? On vous donne un sujet, vous allez sur l'IA, vous faites le sujet. 30 réponses identiques. Une fois qu'on a les 30 réponses identiques, chacun, le prof va dire aux élèves, c'est une situation vécue, hein, va dire aux élèves, à partir de ce texte, vous allez tous avoir le même, ayez l'esprit critique, qu'est-ce que vous allez y trouver, etc. Donc, on va se désemplir d'une facilité d'information pour après garder l'esprit critique. C'est pas tout le monde qui le fait, mais c'est ce que je pense.
Est-ce que l'IA est-elle vraiment importante?
Enfin, oui, je pense. Mais à propos du travail, je pense que ça nous facilite certaines parties, comme les emails, ce qui est tout bête, mais on peut lui demander aussi de répondre. C'est comme... aujourd'hui, c'est très courant, mais ChatGPT, qui est beaucoup utilisé même en cours pour nous aider, même pour fiches de révision, tout ça. Mais il faut aussi l'utiliser intelligemment.
L'homme est important, la femme est importante, l'être humain est important, pour moi.
Est-ce qu'il y a une nuit-elle à notre créativité dans la vie de tous les jours?
Moi, je pense que oui, parce que du coup, on réfléchit moins, on est moins créatif. On va direct se pencher sur ChatGPT, par exemple, pour trouver des idées... Par exemple, pour des travaux artistiques ou quoi, on va pas se creuser la tête, on va dire. Et on va chercher la facilité au lieu d'utiliser notre imagination.
Non.
Et est-elle problématique pour les artistes?
Certainement, pour des artistes qui donc vont être mis au rabais, mais notamment qui vont avoir sûrement un talent technique, mais on va se dire ça nous coûte moins cher, ça prend moins de temps de choisir une IA. Mais après, je sais qu'il y a des artistes, notamment une BD que j'avais découverte il n'y a pas très longtemps, qui avait été faite avec l'IA, et il avait passé vachement de temps, l'artiste, et pour lui, c'était un outil de création. Il l'avait considéré comme un outil. Mais après, en termes de rémunération, de statut, effectivement, ça peut poser un problème, je pense, avec cette mentalité de rentabilité qu'il peut y avoir parfois, et puis de remplacement par une machine pour créer une mise en page, alors qu'il y a des personnes qui font ça de manière peut-être plus subtile.
En conclusion, l'IA est un sujet qui divise. Pour certains, elle peut être très utile, à condition de savoir se limiter et de l'utiliser de manière constructive. À ce sujet, Mathéo, tu souhaites développer un peu plus.
Aujourd'hui, l'IA est sur beaucoup de lèvres. Il ne s'agit plus d'un rêve, mais d'une réalité de plus en plus accessible. Elle est partout, dans les téléphones, dans les ordinateurs, sur les réseaux sociaux. Elle corrige nos fautes, elle répond à nos questions, elle crée même des images et des voix. Elle devient chaque jour de plus en plus forte, plus rapide, plus complexe. Il est désormais possible de faire des vidéos hyper réalistes en quelques clics. Alors qu'avant, elle avait du mal à générer une image correcte ou à tenir une conversation simple. Les progrès sont énormes et inquiétants à la fois. Des questions commencent à se poser sérieusement. Est-ce que l'IA va nous remplacer un jour? Certains disent que non, qu'elle ne fera que nous assister, mais on voit déjà des postes supprimés dans les entreprises qui automatisent des services. Dans certains domaines, elle est de plus en plus rapide, plus efficace, plus rentable. Et quand on regarde ça de près, on se dit que peut-être un jour elle fera mieux que nous dans bien des métiers. Est-ce qu'elle est vraiment importante? Oui, dans certains cas, elle sauve des vies. Elle permet de découvrir d'incroyables choses, elle analyse ce qu'aucun humain ne pourrait analyser seul. Elle peut être un allié pour mieux comprendre le monde, pour réparer, pour prédire. Mais elle n'est pas toujours nécessaire. On la met partout, même là où elle n'apporte rien. Comme si on avait peur de faire sans elle. Pour les artistes, c'est une vraie menace. Certains voient leur travail copié, on génère des tableaux en 2 secondes pendant que eux mettent des mois à finir une toile. L'IA n'a pas d'émotion, pas d'histoire, pas de vécu. Et pourtant, elle vend des œuvres, elle compose, elle écrit, elle chante. Or que ceux qui vivent de leur art se battent pour survivre, pour exister. Et c'est injuste et douloureux, ça questionne la valeur de la création humaine. Est-ce que l'IA est-elle un signe de prospérité ou de décadence? Peut-être les deux. Elle montre notre génie, mais aussi notre excès. Notre capacité à innover et notre tendance à aller trop loin sans réfléchir. On veut tout optimiser, tout contrôler, tout produire, mais à quel prix? Perte de sens, perte de lien. Et malgré tout, malgré ce contraste sombre, il reste une lumière. Parce que l'IA n'est pas vivante. Elle n'est qu'un miroir de ce qu'on lui donne. Si on lui donne le pire, elle le reflétera. Mais si on lui donne le meilleur, elle nous le rendra. Alors peut-être qu'elle deviendra une alliée et pas une menace. Peut-être qu'elle nous aidera à redevenir plus humains en nous délestant de certaines tâches. Peut-être qu'elle nous forcera à mieux définir ce que signifie créer et ce que signifie être vivant. L'avenir est flou, mais il n'est pas encore écrit.
Envie d'ado.
Envie d'ado, une émission radiophonique.
Anaïs.
Mathéo.
Meryl.
Tamara.
Dino.
Jade.
Envie d'ado.
Vous avez compris que maintenant, nous pouvons composer de la musique à partir de l'IA. Mais saviez-vous que l'IA peut aussi interpréter vos paroles? La question se pose, est-ce vraiment encore du chant? Heureusement, il y a encore des êtres humains pour nous transmettre des émotions en chansons comme Anaïs, que vous entendrez après sa chronique justement sur le chant.
Nous écoutons tous de la musique et nous avons tous des chanteurs préférés. Mais savez-vous que chanter et transmettre des émotions est plus difficile qu'il n'y paraît? Je m'appelle Anaïs, je pratique le chant dans une école, je suis passionnée et aujourd'hui j'ai décidé d'évoquer avec vous le déroulé d'un cours de chant et ce que personnellement cela m'apporte dans ma vie. Un cours de chant typique commence souvent par un échauffement vocal. Il s'agit de préparer la voix, mais aussi le corps et la respiration. On y pratique des exercices de souffle, des vocalises pour détendre les cordes et des mouvements afin d'échauffer le corps. Ensuite vient le travail de la chanson. On explore les paroles, la mélodie, le rythme et surtout l'émotion. L'objectif est de donner du sens à ce que l'on chante, de raconter une histoire. Enfin, on chante la chanson dans son intégralité, avec toute l'énergie et les sensibilités qu'on a développées pendant le cours. Dans les périodes difficiles, le chant devient bien plus qu'une activité artistique. Il devient un refuge. Il permet de poser des mots et des sons sur ce que l'on ne parvient pas toujours à exprimer autrement. Il aide à libérer les émotions enfouies, à reprendre confiance en soi et à retrouver une forme de paix intérieure. Le chant n'est pas réservé à une élite ou aux grandes voix. Il est à la portée de tous, peu importe l'âge ou le niveau. Chanter, c'est avant tout s'écouter et se laisser porter. Alors pourquoi ne pas essayer ? Votre voix pourrait bien être votre meilleur allié. Pour vous, chers auditeurs, sur le plateau de Fréquence Mistral, je vais interpréter le titre Voilà, une chanson de Barbara Pravi.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi. Avant que je me déteste, quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. partez pas. Je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains. Tout ce que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà.
Merci Anaïs pour cette interprétation.
C'est le moment de nous quitter. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette émission nous a plu. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Thursday, I don't care about you. It's-